Jésus se mettait en route quand un homme accouru vers lui se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-là déjà le centuple, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est énergique, elle est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Et elle a été efficace pour ce jeune homme riche, même s'il est parti tout triste, car il avait de grands biens. Justement, cette tristesse, ces larmes, sont aussi un fruit de l'Esprit Saint, un fruit de l'action de la parole dans son cœur. Cet évangile, au chapitre 10 de l'évangile selon saint Marc, nous est bien connu, peut-être trop connu. Il est d'une richesse absolument extraordinaire. D'abord, cet homme court vers Jésus et se prosterne devant lui. Et cela n'est pas sans rappeler Abraham qui court vers les visiteurs qui viennent à lui et qui se prosterne devant eux. Cela nous indique dans la vie spirituelle cette hâte, ce grand désir, cet amour, ce feu qui doit animer notre cœur pour que nous nous hâtions à la rencontre du Seigneur. Parfois, je vois un petit peu de bousculade sur le parking ou à l'entrée de l'église, mais c'est plutôt de la précipitation. Et le Seigneur voudrait nous inviter à prendre le temps d'arriver un petit peu avant à la messe, ou en tout cas bien à l'heure, de nous hâter à sa rencontre à cause du désir, du feu qui anime notre cœur pour le rencontrer, pour le voir. Et puis, ce jeune homme dit cette parole, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il y a trois choses importantes. D'abord, il dit à Jésus qu'il est bon. Et comme Jésus le souligne, eh bien, il n'y a que Dieu qui est bon. Ensuite, il dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, je vous rappelle, il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, il dit « pour recevoir en héritage ». Et là, il s'agit donc d'accueillir, de recevoir, de ne rien faire. Alors Jésus aurait pu lui dire « eh bien oui, tu fais bien de dire que je suis bon, car je suis la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée pour venir sauver le monde ». Mais non, il le repousse, il le rejette un peu, il met une distance, il lui dit « Dieu seul est bon, pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et nous voyons là que Jésus essaie de ne pas créer avec cet homme une relation duelle, une relation, on pourrait dire, même fusionnelle. Il introduit un tiers, celui qui est bon et qui est la source et l'origine de la vie et de la bonté et de l'amour, qui est la propre source de sa vie, lui qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, engendrée de toute éternité par le Père, mais c'est aussi celui qui est l'origine et celui qui nous donne, qui nous dit les commandements de vie, les lois de vie, comme on le dit. Et donc il renvoie au Père celui qui est la source de tout et qui est celui qui donne les commandements, qui nous donne la vie. Alors ce faisant, eh bien, il lui a rappelé que le premier de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu le Père qui est bon, infiniment bon, comme on le dit dans une prière eucharistique. Ce faisant, Jésus lui-même, en tant qu'homme, et aussi en tant que deuxième personne de la Trinité, a obéi au premier commandement, d'aimer Dieu, le Père, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et donc devant cet homme, il lui montre le chemin, il est le chemin, il lui montre le chemin. Et puis il lui dit, tu connais les commandements. Et voilà que Jésus récite les commandements. On a compris maintenant pourquoi sans nommer les premiers qui concernent Dieu. Mais il y a un petit désordre dans les commandements qu'il édicte. Normalement, juste après l'amour de Dieu, eh bien, il y a le commandement « Honore ton père et ta mère ». Car le père et la mère sont ceux par qui l'amour de Dieu et les commandements de Dieu nous sont transmis. Et donc, ils viennent juste après l'amour de Dieu. Ils sont lieutenants de Dieu. Ils tiennent lieu de Dieu pour chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que Jésus, qui pourtant aimait sa maman et son papa, pourquoi est-ce qu'il décale ce commandement d'honorer son père et sa mère à la fin de la liste des commandements concernant le prochain, comme s'il le mettait en dernier? En tout cas, le jeune homme répond du tac au tac, mais tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de paroissiens qui courent voir le prêtre en lui disant « Bon maître, bon curé, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Moi qui pratique déjà les 10 commandements depuis ma jeunesse. » C'est assez extraordinaire et on peut penser que c'est pour ça que Jésus pose sur lui son regard de tendresse et d'amour. Un regard qui d'habitude ne résiste à personne. Il pose son regard sur Pierre. Il lui dit « Simon, tu vas devenir pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il pose son regard sur Matthieu qui laisse là sa table de collecteur d'impôts et qui le suit. Il pose son regard sur la Samaritaine, sur la femme adultère. Enfin, sur tous ceux sur qui il pose son regard, d'habitude, les gens craquent. Ils ont le cœur qui se fend en deux et qui se laisse toucher. Jésus pose son regard sur lui et il l'aime, non pas qu'il ne l'aimait pas avant, mais il l'aime encore plus en voyant le désir de cet homme qui accourt vers lui, qui fait déjà tous les 10 commandements et qui demande « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui révèle, il lui révèle sa souffrance intime, il lui révèle son problème de sa vie spirituelle. Il lui dit « Effectivement, il y a une chose qui te manque. Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans les cieux. » Il manquait quelque chose à cet homme qui était parfait. Il lui manquait de répondre à cet appel dans l'appel, un appel à tout laisser pour suivre Jésus. On aurait pu raconter bien d'autres histoires, par exemple que cet homme faisait la crise de la quarantaine et qu'il en avait marre de vivre les commandements, et donc il était en crise. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cet homme obéit aux commandements, il les accomplit, mais un petit soupçon se glisse dans notre tête, dans notre cœur. Comment se fait-il que s'il accomplit les commandements, quand il rencontre celui qui en est le témoin, le garant, qui lui dit la parole de vérité pour son cœur, eh bien il n'est pas capable d'y répondre, il n'est pas capable de le suivre? N'est-ce pas parce que dans son obéissance au commandement, finalement, il continue de faire plaisir à son papa et à sa maman? Il continue d'obéir au commandement pour faire plaisir. Mais il n'a pas choisi librement par lui-même d'obéir au Père qui est à l'origine, à la source des commandements, et pour le Père. Et c'est peut-être pour ça que Jésus décale le Père et la Mère à la fin, comme pour les mettre un petit peu en veilleuse. C'est peut-être aussi parce que c'est assez facile pour lui d'obéir à tous ses commandements. Il est riche de sa famille, riche de ses biens. Il n'a pas besoin de piquer la femme de son prochain. Il n'a pas besoin de voler dans la caisse. Il a tout ce qu'il lui faut finalement. Et donc ce n'est pas si difficile. Une seule chose te manque. À chacun d'entre nous aussi, le Seigneur nous invite à nous laisser toucher par cette parole, à nous reconnaître, bon an, mal an, dans le désir de ce jeune homme riche, notre désir d'aimer le Seigneur et de le suivre, et à reconnaître que cette parole s'applique aussi à nous. Il te manque quelque chose, il y a encore quelque chose que tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas tout donné, tu ne t'es pas donné entièrement. Et là, nous sommes, mais comme les apôtres, complètement stupéfaits. Parce que quand même, nous donnons déjà beaucoup. Nous faisons de notre mieux. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore de plus? Et puis ces richesses. Normalement, dans la Bible, c'est le signe de la bénédiction de Dieu. Comment est-ce que Jésus peut demander encore de tout donner? Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Et Jésus le confirme. Ce n'est pas possible. Ce serait plus facile même à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais qui peut être sauvé? Personne, dit Jésus. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, écoutez bien cette parole, à Dieu, tout est possible. Lui-même, qui est riche, riche de toute sa gloire, de sa divinité, de son amour, de sa tendresse, lui-même s'est fait pauvre, obéissant. Lui-même a quitté la gloire qui lui revenait pour se faire homme, pour revêtir notre humanité, pour nous montrer le chemin. Et non seulement il s'est fait homme, mais il a pris sur lui le drame de notre humanité, nos souffrances, nos maladies, nos chômages, nos querelles, nos guerres, nos famines. Il a pris sur lui tout. Il en a vécu la passion, il est mort sur la croix, il s'est offert jusqu'au bout, il s'est donné totalement. Une seule chose te manque. Le Seigneur nous interroge, chacun d'entre nous, et nous avons à demander à l'Esprit-Saint, « Seigneur, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné encore? Où est-ce que je pourrais me donner encore plus radicalement ?» Aucun d'entre nous, j'imagine, ne peut se dire, « Ça y est, je suis arrivé au bout de la course de l'amour et de la fidélité. » Chacun d'entre nous peut être touché par cette parole. Et n'imaginez pas forcément quelque chose de fou et de dingue. Pourquoi pas quelque chose de tout petit et de tout simple, une petite habitude, même peut-être pas forcément mauvaise en soi, mais qui fait que nous ne nous donnons pas complètement au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu, Dieu lui-même l'a fait, et c'est pour ça qu'il peut nous rendre capables de le vivre et de le faire. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Eh bien, ne demande pas la richesse, c'était la prière de Salomon, ne demande pas la santé, ne demande rien, ne demande qu'une seule chose, la sagesse. Parce que tu m'as demandé cela, lui répond le Seigneur, je te donne la sagesse, et je te donne tout le reste avec. Et il n'y eut pas de roi aussi grand et aussi comblé que Salomon, parce qu'il a eu cette sagesse de ne demander à Dieu que d'être sage. Voilà, prions l'Esprit-Saint maintenant les uns pour les autres, en lui demandant de nous révéler une petite point de conversion, une petite chose qui nous manque pour lui appartenir totalement, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen.